Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Éric Coquerel, député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, auteur du livre « Lâchez-nous la dette ». Bonsoir.
Bonsoir.
Éric Coquerel, le ministre de la Santé a annoncé que la troisième dose de rappel sera obligatoire pour continuer à bénéficier d'un pass sanitaire. Vous regrettez qu'il n'ait pas annoncé, par exemple, la gratuité des tests ?
Évidemment, évidemment, parce que cette décision d'avoir rendu les tests payants était déjà ahurissante, puisque sur la question du Covid, dont on voit bien que l'épidémie, malheureusement, n'en a pas fini, on est dans une situation où il faut absolument continuer à tester, à repérer les gens qui sont contaminés pour qu'ils puissent protéger les leurs. Et rendre les tests payants, c'est évidemment contre-intuitif, d'autant plus si on veut résumer, on veut faire en sorte de réduire ces tests à une validité de 24 heures au lieu de 72 heures, comme il est question. Donc c'est quelque chose qui est évidemment négatif.
Éric Coquerel, vous soutenez la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Son programme « L'avenir en commun » a été publié et distribué la semaine dernière. Quelles mesures prendra le candidat Jean-Luc Mélenchon s'il est élu pour lutter contre les déserts médicaux ? Votre département, la Seine-Saint-Denis, est particulièrement concerné par ce problème.
Déjà, il y a plusieurs mécanismes. Déjà de faire en sorte d'en finir avec les politiques d'austérité à l'hôpital. Parce que, contrairement à ce que dit Monsieur Véran, on continue en réalité à imposer des baisses financières structurelles à l'hôpital cette année encore. L'an dernier, on a fermé, 20 000 lits ont dû fermer, 5 900 de manière définitive, alors même qu'on est en pleine crise Covid. Donc il faut arrêter avec ces politiques où, vis-à-vis des hôpitaux et de la santé publique, on regarde d'abord la question des budgets avant de regarder la question des besoins. Ça, c'est la première règle. Et ça a des implications, par exemple, pour notre département. C'est que, vous le savez, il doit y avoir la construction d'un grand hôpital Paris Nord à Saint-Ouen qui remplacerait les hôpitaux Beaujon et Clichy-Pichat à Paris, où on trouve que ce n'est pas bon. Il faut garder ces deux hôpitaux, en créer un troisième en Seine-Saint-Denis et surtout pas fermer des lits. Voilà les implications concrètes. Ça, c'est la première décision. La deuxième décision, c'est de faire en sorte que les effets de la fin du numerus clausus attendu puissent se faire. Et nous envisageons très clairement d'embaucher des médecins fonctionnaires qui puissent justement aller à un moment donné dans des zones qu'on appelle des déserts médicaux, mais aussi, par exemple, de revaloriser leur mission pour que à nouveau il y ait des médecins dans les écoles, dans les lycées. Vous savez comme moi que aujourd'hui l'éducation nationale n'arrive plus à trouver ses médecins. Donc il faut mettre le paquet, et pour ça, ça veut dire revaloriser les pensions, revaloriser les salaires de ces médecins fonctionnaires, de façon à, j'allais dire, en finir avec le désert médical. Donc je résume: renforcement de l'hôpital, renforcement de la santé publique, et en même temps, eh bien, ne pas hésiter à recruter des médecins qui pourraient pallier au manque actuel.
Éric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon, président, est-ce que les Français pourront se passer de mutuelles et de surcomplémentaires ? Est-ce que la santé sera gratuite pour tous avec une sécurité sociale qui remboursera 100% des soins ?
Absolument. On est pour le 100% sécurité sociale. Tout simplement parce qu'il nous semble que ce serait plus juste, plus facile. Évidemment, pour les travailleurs aujourd'hui, toutes les personnes qui vivent dans les mutuelles, de leur travail dans les mutuelles, ça veut dire qu'ils seraient versés au régime social, au régime de la sécurité sociale, de façon à ne pas perdre leur emploi, mais nous sommes pour la 100% sécurité sociale.
Alors, vous avez écrit un livre sur la dette, c'est le cheval de bataille de François Bayrou et d'Édouard Philippe notamment. Vous n'êtes pas inquiet par l'aggravation de la dette de la France ? Il n'y a pas de danger à court et moyen terme ?
Vous savez, il n'y a jamais eu de danger par la dette. En réalité, on instrumentalise la dette à des fins très souvent de faire baisser les dépenses publiques, de privatiser les services publics, d'imposer des réformes structurelles comme les retraites, comme l'allocation chômage, parce que la France est un pays suffisamment riche pour pouvoir payer une dette dont il faut arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. Aujourd'hui, pour laisser penser que notre pays est surendetté, on regarde la dette qu'il a remboursée, par exemple, sur 7 ans, et on la ramène à un an de revenus. C'est comme si vous, demain, vous achetez un appartement sur 30 ans, et on vous dit vous êtes endetté sur une année à la hauteur des 30 ans de remboursement que vous devez faire. Ça n'a pas de sens. En réalité, il faut regarder les intérêts de la dette. C'est environ entre 50 à 100 milliards par an, donc on a largement de quoi le payer. Deuxièmement, il faut aussi considérer la dette actuelle, la dette Covid, celle qui a été créée pour faire face aux dépenses du Covid, et qui a une particularité, c'est qu'elle est détenue, celle-ci, directement par la Banque centrale, c'est-à-dire la Banque de France en France, et non plus sur les marchés. Donc nous disons, au lieu pendant des années de rembourser cette dette, de baisser les dépenses publiques, comme le propose de le faire le gouvernement, annulons-la. Ça créera certes un tout petit peu d'inflation, mais c'est largement préférable au fait que pendant des années, on rembourse cette dette qui sera un poids pour l'économie.
Alors, la droite et Emmanuel Macron estiment qu'il faudra reculer l'âge du départ à la retraite. Jean-Luc Mélenchon, président, Éric Coquerel, il sera possible de prendre sa retraite à 60 ans?
Mais bien sûr. Déjà, premier constat, aujourd'hui, on a un problème de répartition du partage du temps de travail. C'est-à-dire que quand vous avez autant de chômeurs dans un pays, notamment dans la jeunesse, la question c'est de trouver les conditions pour que tout le monde travaille et non pas, j'allais dire, d'alourdir le nombre d'heures travaillées pour ceux qui ont du travail. Alors, ça veut dire revenir aux 35 heures en allant vers les 32 heures, mais ça veut dire aussi d'arrêter de pousser les gens, de forcer les gens à travailler très longtemps au détriment de leur santé, parce qu'on voit que dans tous les pays du monde où on a rallongé l'âge de durée de départ, l'âge de la retraite, eh bien les gens en général meurent plus jeunes à nouveau, ou tout au moins sont en bonne santé moins longtemps malheureusement qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Donc permettre le retour à la retraite à 60 ans, c'est permettre de trouver du travail pour les plus jeunes, et puis c'est aussi permettre de profiter, c'est bien normal, des années de cotisation, de façon à pouvoir vivre une retraite encore en bonne santé. Et on a l'argent. On sait que une caisse existe, elle est assez importante, hein, qui a été qui existe depuis des années, qui permet d'affronter quelques années de déficit que qu'on nous promet dans les quelques décennies à venir, et on sait que d'ici 2030, à nouveau, les comptes sociaux seront équilibrés. Donc, si je résume, faisons en sorte de revenir à 60 ans, mettons par exemple les salaires, mettons une véritable égalité salaire homme-femme, de façon à ce que les cotisations augmentent, et rien que ça, déjà, nous avons calculé que ça apporterait des milliards chaque année aux retraites. Arrêtons les exonérations des entreprises qui alourdissent elle aussi les comptes sociaux et les comptes de retraite, et vous assure qu'on peut retourner à un système où on part à la retraite à 40 ans.
Alors j'aimerais qu'on parle des étudiants, Éric Coquerel. Ils ont beaucoup souffert lors de la crise sanitaire, mais on parle moins des étudiants qui sont actuellement sans master. Vous soutenez leur combat. Plus globalement, que propose Jean-Luc Mélenchon pour améliorer les conditions de vie des étudiants?
Déjà, de mettre le paquet sur les facs, parce que aujourd'hui les budgets pour les facultés sont véritablement insuffisants. Or, en 86, au moment de la réforme de Vaquet, vous savez, une des grandes démobilisations étudiantes contre la sélection, il y avait 1 500 000 étudiants. Aujourd'hui, il y en a 2 500 000, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les budgets n'ont pas suivi. Donc il faut remettre les budgets pour que les étudiants dans les facultés aient suffisamment de place, des bonnes conditions d'études. Deuxièmement, il faut en finir avec les idées de sélection. Un étudiant qui a le bac, un bachelier, doit pouvoir suivre des études dans les secteurs et les filières qu'il souhaite. Troisièmement, il faut en finir avec cette concurrence entre les universités qui a été créée, notamment par la loi LRU. Et puis enfin, il faut s'occuper de la condition des étudiants. De plus en plus d'étudiants sont pauvres. De plus en plus d'étudiants sont obligés d'avoir des emplois précaires, dans des conditions de pire en pire. Donc nous sommes pour créer un revenu garanti minimum qui serait au niveau du seuil de pauvreté, 1063 euros, et qui permettrait à chaque jeune en adulte en formation, que ce soit à la faculté ou ailleurs, de pouvoir suivre ses études tout en gagnant sa vie de manière normale.
Concrètement, on supprime la plateforme Parcoursup, qui est une véritable source d'angoisse pour les jeunes bacheliers et leurs parents.
Bien sûr, bien sûr. Il faut en finir avec la sélection. Moi, je pense que c'est une chance d'avoir de nombreux étudiants dans un pays. Une des forces de la France, c'est sa matière grise. Donc, tout ce qui consiste justement à sélectionner est une mauvaise chose. Regardez, par exemple, à ce moment, à Nanterre, où 61 étudiants sans fac sont obligés de se mobiliser pour être inscrits à la fac de Nanterre. C'est quand même quelque chose d'absolument incroyable que on ait poussé les jeunes à 80% de tranche d'âge bachelier et qu'on ne leur permette pas de suivre des études après. Donc, ils font finir avec Parcoursup, qui est l'organisation de la sélection.
Alors, la semaine a été marquée par un drame au large de Calais, des migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l'Angleterre. Comment éviter de tels drames à l'avenir, Éric Coquerel ?
Eh bien, arrêter de créer les conditions qui font que des gens se retrouvent dans cette situation à la proie de passeurs malhonnêtes, avec les naufrages qu'on connaît. Vous parlez des 31 morts dans le Pas-de-Calais, mais malheureusement, en Méditerranée, cette année, on en sera vraisemblablement à plus de 2000. C'est pas normal que nos mers, nos littoraux servent de cimetière pour des êtres humains. Il faut d'abord se rappeler que ce sont des êtres humains, et j'allais dire que c'est quelque chose qui, dans le discours de certains politiciens d'extrême droite, mais aussi malheureusement de mesures du gouvernement, est trop souvent oublié. Il faut créer les conditions d'un accueil digne. Les gens qui, la plupart des migrants qui sont en France installés aujourd'hui ne repartiront pas, c'est pas vrai. Donc ayons des conditions d'accueil dignes qui permettent un hébergement d'urgence, qui permettent de régler administrativement leur situation. Régularisons les travailleurs sans papiers, c'est-à-dire tous ceux qui, parce qu'ils étudient, parce qu'ils sont à l'école, parce qu'ils travaillent, enrichissent ce pays, participent à sa vie, et on sait aussi bien que eux aussi ne repartiront pas. Les problèmes aujourd'hui, c'est pas le fait qu'il y a trop de migrants dans ce pays. Il n'y a pas de vague migratoire telle qu'on ne pourrait pas les assumer. C'est que la France n'a aucune politique d'accueil digne de ce nom. Et là, à partir de quoi? Là, ça crée le chaos. Ça fait que des jeunes mineurs exilés, des jeunes mineurs se retrouvent, par exemple, la proie de trafiquants de drogue qui les utilisent, ou la proie de trafiquants à travers, par exemple, le crack. Ça fait que des jeunes mineurs se retrouvent embarqués sur des embarcations de fortune et risquent de mourir des migrants, des familles. Donc, il faut un accueil digne de ce nom. Ça, c'est la première mesure. Il faut régulariser les travailleurs sans papier. Il faut une carte unique de 10 ans comme norme, d'accueil des migrants dans ce pays. Et puis, à côté de ça, il faut essayer de savoir pourquoi les gens sont obligés de partir. Il faut aller voir les causes. Elles sont souvent climatiques, économiques, de guerre. Des causes dans lesquelles nos pays industrialisés ont beaucoup de responsabilités, ce qui ça passe là, à mon avis, par renforcer les institutions internationales qui travaillent sur la question des migrations, et notamment nous proposons, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, une convention, une conférence annuelle des migrations dans le monde, de façon à ce que la communauté internationale appréhende ce problème de manière solidaire.
Vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy, qui affirme que la crise migratoire n'a pas encore commencé?
Elle a commencé entre pays du Sud très souvent, parce que on parle de l'Europe, mais très souvent les problèmes climatiques entraînent des fois des migrations, là pour le coup, de centaines de milliers, voire de millions de personnes dans des pays qui, n'ont pas souvent pas les moyens d'accueillir ces populations. Mais en Europe, c'est vrai, la question climatique, si malheureusement elle se poursuit, s'il se dégrade, il y aura très certainement des flux migratoires bien plus importants. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc moi, je suis pour ne pas fantasmer, je suis pour gérer les problèmes de manière pratique, concrète. Aujourd'hui, en gros, le solde migratoire, c'est-à-dire entre les gens qui arrivent dans ce pays et qui en repartent plus malheureusement, ceux qui meurent dans ce pays, on pense qu'il est de 130 000 à 140 000 personnes par an. La France a largement de quoi accueillir 130 000 à 140 000 personnes, d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'à long terme, c'est souvent une chance pour le pays, pour la diversité culturelle, pour l'apport économique de ces personnes.
Comment réagissez-vous au discours de la droite qui souhaite notamment restreindre l'immigration familiale?
C'est un discours aberrant et qui crée là aussi de la marginalité. Vous savez, moi dans ma circonscription, j'ai plein de gens qui viennent me voir, qui sont dans des situations abracadabrantes. telle personne qui dont les parents sont français, qui est arrivée après de l'autre côté de la Méditerranée et qui du coup n'est pas française et risque d'avoir un OQTF d'un moment à l'autre alors qu'elle poursuit des brillantes études. Telle autre personne dont toute la famille vit en France de manière normale et qui ne peut pas rester en France. Telle autre personne qui travaille depuis des années, paye des impôts, a des enfants et est également illégal en France. Donc il faut au contraire relancer la question du regroupement familial, relancer l'acquisition de visa de manière plus facile, l'acquisition de carte de séjour de 10 ans. Il faut en finir avec la marginalisation qui impose une politique à la fois inhumaine et injuste, et celle des migrations aujourd'hui.
Éric Coquerel, de nombreux Français s'apprêtent à voter Emmanuel Macron, si l'on en croit les sondages, y compris des personnes qui sont de sensibilité de gauche. Qu'est-ce que vous redoutez pour le pays en cas de réélection du président sortant ?
Attendons de voir déjà, parce que moi je vois bien les sondages, mais je regarde autour de moi, et je ne sais pas vous, mais je ne connais pas tant de gens que ça qui disent qu'ils vont voter Emmanuel Macron. Donc je suis un peu très, très dubitatif sur la hauteur des sondages annoncés pour Emmanuel Macron. S'il était réélu, ce serait la poursuite de 5 ans de démantèlement de l'État social, 5 ans de libéralisme, 5 ans aussi malheureusement de politique de plus en plus autoritaire, justement pour imposer ce système injuste et inégalitaire. Donc c'est vraiment pas ce que je souhaite à mon pays, mais je souhaite ni l'extrême libéralisme de Macron, ni évidemment l'extrême droite de M. Zemmour et Mme Le Pen, et c'est pour ça que il me semble que l'alternative systémique, celle qui propose une autre voie, de la planification écologique, du partage des richesses, du partage du temps de travail, de la 6e République, d'une véritable politique indépendante française, de la rupture avec les traités européens, eh bien je ne vois pas d'autre candidat que Jean-Luc Mélenchon pour proposer cette alternative.
Que dites-vous aux électeurs écologistes et socialistes qui hésitent à voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui actuellement est en tête des sondages pour la gauche? Ils peuvent s'inquiéter d'une certaine forme de radicalité de sa part.
Lisez notre programme et vous apercevrez, je leur dirais, que nous portons finalement un programme qui est celui du gauche de ce nom, qui doit toujours s'inscrire dans les combats de l'égalité sociale, de la justice sociale, d'une protection sociale importante, d'un État social qui protège les plus faibles, de ne pas laisser toute la place au marché, notamment pour les questions environnementales. Notre programme n'est pas radical pour être radical, il est radical parce qu'aujourd'hui, il faut rompre avec le néolibéralisme. Et moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, beaucoup d'électeurs écologistes et socialistes, se font peut-être des idées sur ce que nous portons, à travers notamment les caricatures qui parfois sont faites de nous. Je leur conseille une chose, lire notre programme. Parce que notre candidat, avant tout, bien évidemment porté par Jean-Luc Mélenchon, c'est le programme L'Avenir en commun.
L'élection de Jean-Luc Mélenchon, ce serait comparable au 10 mai 1981 pour vous ?
Ça serait une révolution citoyenne en tout cas, c'est-à-dire ces révolutions par les urnes que nous appelons, et ça serait à la fois comparable, mais je crois que ça serait un écho encore plus important d'Europe, parce que la France, quand elle s'engage sur, j'allais dire, ses voies de rupture avec l'injustice, souvent est écoutée plus que les Français ne l'imaginent, et j'ai bon espoir que une telle rupture en France pourrait augurer des transformations profondes dans beaucoup d'autres pays européens. En tout cas, on voit bien aujourd'hui que c'est la seule alternative vis-à-vis de deux systèmes qui finalement ont des points communs, c'est-à-dire celui de l'ultralibéralisme autoritaire de M. Macron et celui de l'ultralibéralisme autoritaire mais d'extrême droite et malheureusement presque souvent fascisant d'un M. Zemmour ou d'une Mme Le Pen.
Et merci Éric Coquerel. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de la première circonscription de Seine-Saint-Denis et auteur du livre Lâchez-nous la dette. Bonsoir.
Merci, bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.